Et à présent, place au journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Hugo Lanoë. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. De Port-au-Prince à Caracas, de Rio de Janeiro à Santiago, en passant par Montréal, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Haïti et des Amériques. 20 minutes ensemble au programme aujourd'hui. Les Haïtiens se réveillent avec un nouveau Premier ministre par intérim, Jean-Michel Lapin, nommé hier par le président Jovenel Moïse. Un changement politique qui suscite commentaires, mais aussi indifférence. On voit ça dans un instant avec la revue de presse de Stéphanie Schuller. Il n'a de doux que son nom de scène. L'ancien président haïtien Michel Martelly, alias Sweet Mikey, donne un concert ce soir à Montréal, aux grandes dames de la communauté haïtienne. Plusieurs organisations appellent au boycott du spectacle en cause ses chansons jugées misogynes et sexistes. Nous reviendrons également sur l'arrestation au Brésil de l'ex-chef d'État Michel Temer, soupçonné d'être à la tête d'une organisation criminelle. Enfin, avant de faire le point sur l'actualité des Caraïbes, cette interview à suivre, celle du député brésilien Jean Willis, contraint à l'exil, son homosexualité et ses convictions politiques ne sont visiblement pas les bienvenues dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Et pour commencer, on ouvre les journaux avec la revue de presse de Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et à la une aujourd'hui, on en parlait à l'instant, Haïti a un nouveau Premier ministre.
Et oui, il s'appelle Jean-Michel Lapin, jusqu'ici ministre de la Culture et de la Communication. Le président haïtien Jovenel Moïse l'a nommé hier Premier ministre par intérim, en attendant le choix d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement, rapporte le quotidien Le National. En début de semaine, la Chambre des députés avait destitué Jean-Henri Séan. Sur les 103 députés qui avaient pris part au vote de censure lundi, 93 avaient voté pour le renvoi du Premier ministre, accusé de n'avoir rien fait pour améliorer les conditions de vie en Haïti. Mais Jean-Henri Séan avait saisi la justice pour contester ce vote de la Chambre basse, rappelle le Nouvelliste aujourd'hui, qui s'interroge. Sa plainte tient-elle encore? Après la nomination de Jean-Michel Lapin, le chef du gouvernement sortant a en tout cas fini par présenter sa démission.
Et ce nouveau revirement dans la vie politique haïtienne suscite bien évidemment des commentaires.
Si le bilan de Jean-Henri Séan est maigre, ce n'est pas pourtant l'envie de faire qui lui manquait, estime le Nouvelliste. Il affirmait sa volonté de faire la lumière sur le dossier Petro-Caribé, de demander des audits sur des organismes autonomes de l'État, de combattre la contrebande et le gaspillage des ressources publiques dans l'achat ou la location de véhicules. Pour Séan, ce sont ses projets qui l'ont fait passer pour la bête noire des alliés du président, souligne le quotidien.
Et le départ du Premier ministre et l'arrivée de son remplaçant par intérim s'est fait dans l'apparente indifférence de la population, Stéphanie.
Absolument, le crash en bout de piste de la machine Séan n'a pas provoqué d'émoi particulier, constate l'éditorialiste du National qui conclut « Comme si la population avait choisi d'ignorer les destins croisés d'un Premier ministre en déshérence et d'un Parlement dans ses agitations généralement vaines. »
On continue de parler de l'actualité haïtienne avec une polémique autour d'un concert, celui de Sweet Mikey, prévu ce soir à Montréal. Alors derrière le nom de scène Sweet Mikey se cache Michel Martelly, président d'Haïti de 2011 à 2016. Un misogyne notoire qui fait l'apologie du viol, estime plusieurs organisations haïtiennes et canadiennes. Toutes appellent au boycott du spectacle en cause les paroles de ses chansons jugées misogynes et sexistes. Et cela alors qu'il y a deux semaines, jour pour jour, on célébrait la journée internationale des droits des femmes. À Montréal pour RFI, Marie-Laure Josselin.
De grâce, épargnez le Canada de cette disgrâce. C'est le titre de la lettre ouverte envoyée début janvier au Premier ministre canadien Justin Trudeau. Dedans, un sociologue, Frédéric Boiron, l'exhortait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le concert de Sweet Mikey, le nom de scène de l'ancien président haïtien. En début de semaine, ce sont d'autres Montréalais d'origine haïtienne et des organismes qui œuvrent notamment auprès des femmes victimes de violences sexuelles qui ont interpellé la maire de Montréal afin d'interdire ce concert. Sweet Mikey, disent-ils, incite au viol et à la haine des femmes. Les promoteurs reconnaissent que l'artiste est provocateur, mais que ses spectacles sont toujours populaires. Les billets semblent d'ailleurs tous vendus. Et la maire de Montréal a aussi indiqué avoir reçu des messages en faveur et contre le spectacle. De toute manière, dit-elle, c'est aux autorités fédérales que revient le pouvoir de le refouler, comme ce fut le cas de Dieudonné, l'humoriste français controversé en 2016. Ottawa n'a pas encore répondu. Une manifestation est déjà prévue si le concert a lieu. Marie-Laure Josselin, Montréal, RFI.
Il est 10h14 à Sao Paulo. C'est dans cette plus grande ville du Brésil que l'ancien président Michel Temer a été arrêté hier. Et cela, moins de 3 mois après avoir quitté le pouvoir. Poursuivi dans une dizaine d'affaires de corruption, Michel Temer est notamment soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle. Et cela, dans le cadre de l'enquête anticorruption Lavajato, lavage express en français. Une bonne nouvelle pour les Brésiliens fatigués des scandales de corruption, en témoigne ce reportage à Rio, signé Sarah Cozzolino.
Michel Temer était l'un des présidents les plus impopulaires qu'ait connu le Brésil. Pour André Marcone, chauffeur de taxi, son arrestation était une question de temps.
Je pense même qu'il a été arrêté tardivement. Pour moi, il aurait dû être arrêté en rendant le pouvoir le jour suivant.
Après une série de révélations et d'accusations de corruption durant son mandat, cette arrestation ne surprend pas les Brésiliens. Beatriz Guedes se dit satisfaite, mais elle s'interroge sur les motivations d'une telle décision.
Grand monde ne croyait en l'opération Lavajato, donc c'est une décision très stratégique pour montrer que quelqu'un est arrêté. L'idée, c'est que l'opération redevienne populaire, mais c'est un écran de fumée.
L'arrestation a été saluée par le président Jair Bolsonaro. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Stéphanie Schuller, quelles sont les réactions dans la presse brésilienne aujourd'hui?
Eh bien, l'emprisonnement de Michel Temer, c'est une décision surprenante, estime Carta Capital. Une décision qui, selon l'hebdomadaire, soulève toutefois certaines questions. Selon le procureur, Michel Temer est soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle qui aurait détourné l'équivalent de plus de 400 millions d'euros. Des experts interrogés par Carta Capital estiment que la mesure de prison préventive n'est pas vraiment justifiée, même s'il est vrai que l'ex-président fait l'objet de plusieurs enquêtes. Correio Brasiliense souligne que même plusieurs responsables politiques de gauche qui accusaient Temer d'avoir fomenté un coup d'État contre l'ancienne présidente Dilma Rousseff critiquent aujourd'hui la décision de la justice. D'après O Globo, l'arrestation de Michel Temer est une démonstration de force des enquêteurs de Lavajato, une mesure qui est prise à un moment où certains observateurs et dirigeants politiques commençaient à douter de la volonté du ministre de la Justice Sergio Moro d'aller au bout de sa lutte contre la corruption.
Et pour terminer cette revue de presse, Stéphanie, et direction le Venezuela.
Après l'arrestation hier par les services de renseignement de Roberto Marrero, député et bras droit du président par intérim autoproclamé Juan Guaido, les États-Unis montent au créneau. L'envoyé spécial américain pour le Venezuela, Elliot Abrams, a mis en garde le régime de Nicolas Maduro. Une arrestation de Juan Guaido lui-même entraînerait une réaction de la communauté internationale, rapporte l'Apatía. Hier soir, l'appartement de la députée d'opposition Kelly Perfecto a été perquisitionné par les agents du SEBIN. L'élu était la dernière personne à avoir été en contact par téléphone avec Roberto Marrero avant l'arrestation de celui-ci, fait savoir le quotidien El Nacional.
C'était la revue de presse des Amériques, signée Stéphanie Schuller. Merci Stéphanie. Fuir son pays en raison de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, c'est une triste réalité dans le Brésil de Jair Bolsonaro depuis son arrivée au pouvoir. Parmi celles et ceux qui ont choisi l'exil, l'ancien député de gauche, Jean Willis, menacé de mort du fait de son homosexualité. Jean Willis vit actuellement à Berlin et cette semaine, il était de passage à Paris où il a tenté de sensibiliser les responsables politiques à la situation des droits humains au Brésil. Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Arim, vous avez rencontré Jean Willis, il vous a expliqué les raisons précises de son exil.
C'était en 2016 au Parlement brésilien, Hugo, les députés débattent de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Jean Willis vient de terminer son discours pour la soutenir. Certains collègues de la droite le conspuent, crient des insultes à caractère homophobe. Jair Bolsonaro, alors député, lui lance « Au revoir ma chérie, au revoir mon amour ». C'est à ce moment-là que Jean Willis se rapproche de lui et lui crache dessus. Il a expliqué plus tard qu'il avait à ce moment-là, je cite, « pété un câble ». Il faut savoir que cela faisait déjà plusieurs années qu'il était la cible d'attaques homophobes, y compris de la part de l'entourage de Jair Bolsonaro.
Les premières menaces ont surgi dans des forums du Dark Web, dont les membres étaient des hommes qui détestaient les homosexuels. Il est important de se souvenir que c'était aussi l'un des membres de ces forums qui a perpétré le massacre dans une école de Rio de Janeiro en 2011, tuant 12 filles. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne de diffamation commence avec Jair Bolsonaro en 2011. Avec son entourage, ses réseaux sociaux, il lance sa campagne de diffamation à mon encontre dès 2011.
Et Jean Willis est placé sous protection policière.
Oui, exactement. Une situation pesante, car cela l'empêchait de facto de faire campagne. Le 19 mars 2018, il y a un an, la jeune conseillère municipale de Rio de Janeiro, Marielle Franco, est tuée dans sa voiture. Jean Willis commence alors à craindre pour sa propre vie.
Lorsque Marielle Franco a été assassinée en mars 2018, je me suis rendu compte que les menaces étaient très concrètes et qu'elles pourraient déboucher sur la mort d'une personne. Une personne qui était une amie, qui était dans le même parti que moi, une personne courageuse qui défendait les mêmes positions que moi.
Et c'est dans ce climat, Arim, un climat de violence, que Jair Bolsonaro est élu président en octobre dernier.
Et quelques mois plus tard, une enquête révèle que l'un de ses fils, un parlementaire de Rio de Janeiro, a embauché des proches d'un membre d'une milice soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Marielle Franco. Et le tireur présumé habitait d'ailleurs dans le même complexe d'appartements que la famille Bolsonaro à Rio de Janeiro. Jean Willis se rend compte alors que l'État brésilien ne le protégera pas.
Ce qui a motivé ma décision de quitter le pays, c'était le fait que le Brésil, le gouvernement brésilien, ignorait une demande de l'Organisation des États américains. Elle demandait au Brésil de prendre des mesures pour garantir ma sécurité. Alors je me disais, si l'État brésilien fait fi de la demande de l'OEA, cette organisation importante qui jugeait les menaces pesant contre moi réelles, eh bien cela veut dire que ma vie ne comptait pas pour le gouvernement brésilien.
Jean Willis ayant choisi l'exil, Hugo, c'est son suppléant Daniel Miranda qui le remplace actuellement au Parlement. Et comme Willis, il est homosexuel et seulement quelques semaines après sa prise de fonction en janvier dernier, il a reçu des menaces de mort faisant référence à son orientation sexuelle.
Merci Arim Lipold pour ce compte-rendu d'interview. Arim Lipold du service international de Radio France Internationale. Le Chili organise ce vendredi le premier sommet Prosur. 7 chefs d'État et de gouvernement sud-américains y participeront, venus de Colombie, du Brésil, d'Argentine ou encore d'Équateur. Le but, stimuler l'intégration économique des pays du continent en cherchant des accords communs entre tous plutôt que de se cantonner à des accords bilatéraux. Bonjour Justine Fontaine, correspondante de RFI à Santiago.
Bonjour à tous.
Alors Justine, l'idée du président chilien Sebastián Piñera et de son homologue colombien Iván Duque est que Prosur vienne remplacer l'UNASUR. L'UNASUR, c'est cette organisation régionale qui a vu le jour il y a 15 ans, mais aujourd'hui complètement paralysée par les divisions politiques dans la région.
Oui, l'UNASUR est même mourante depuis que le Chili, la Colombie, l'Argentine ou encore le Brésil ont gelé leur participation à l'organisation l'année dernière. Elle avait été créée sous l'impulsion de présidents latino-américains de gauche, mais elle a ensuite souffert des désaccords entre les dirigeants du continent, concernant notamment la situation politique et économique au Venezuela. Pour combler ce vide, les présidents du Chili et de la Colombie, Sebastián Piñera et Iván Duque, tous les deux classés à droite, essayent donc aujourd'hui de lancer Prosur. Pour l'instant, c'est un sommet périodique des dirigeants du continent, dont le but est de négocier des accords économiques transversaux. L'idée est de pouvoir aller plus loin que les accords bilatéraux et aussi d'inclure davantage de pays que le Mercosur, le marché commun entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Sébastien Piñera promet aussi que l'organisation sera bien moins bureaucratique que l'UNASUR.
Et Justine, il insiste, cette organisation sera au-dessus des tendances politiques des différents chefs d'État.
Avec cette initiative, il tente de se positionner comme un leader à l'échelle régionale. Mais pour le moment, à l'exception du président de l'Équateur, Lénine Moreno, seuls des dirigeants de droite participeront au sommet de ce vendredi. La Bolivie d'Evo Morales et l'Uruguay de Tabaré Vázquez ne seront pas représentés à Santiago aujourd'hui. Pour l'opposition à Sebastián Piñera, ce sommet est donc plutôt une réunion de la droite du continent et une énième tentative de construction régionale qui risque de subir à terme le même sort que l'UNASUR.
Une partie de l'opposition critique aussi la venue de Jair Bolsonaro, dont on parlait à l'instant, le président brésilien d'extrême droite, entré en fonction début janvier.
C'est sa deuxième visite officielle à l'étranger, après les États-Unis en début de semaine. En descendant de l'avion, hier, des journalistes l'ont interrogé sur ses déclarations passées, dans lesquelles il faisait l'éloge de la dictature du général Augusto Pinochet. Il a assuré que lors de son séjour ici, il ne parlerait pas du dictateur qui a occupé le pouvoir au Chili entre 1973 et 1990. C'est justement à cause de son soutien aux anciennes dictatures sud-américaines, de ses déclarations homophobes et sexistes aussi, que plusieurs parlementaires de l'opposition chilienne ont refusé de déjeuner à la même table que lui ce samedi à Santiago. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ont aussi décliné l'invitation. Une organisation de défense des droits des personnes LGBT a appelé à manifester contre la venue du président brésilien, tout comme plusieurs partis d'opposition et groupes de musique qui organisent un rassemblement anti-Bolsonaro ce vendredi soir dans le centre de Santiago.
Merci Justine Fontaine, correspondante de RFI au Chili. Il est 9h, tout juste passé de 25 minutes à Fort-de-France, l'heure du journal des Caraïbes avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Hugo.
Et direction la Martinique, Benoît, où les premiers effets de la sécheresse se font sentir, en témoignent ces plusieurs centaines d'abonnés actuellement privés d'eau.
Oui, une réunion doit d'ailleurs se tenir ce matin, en ce moment même, pour tenter en quelque sorte de répartir la pénurie. Hier, plus de 2000 abonnés n'avaient plus d'eau au robinet dans le centre et le sud de la Martinique. Et des périodes de carême aussi sèches, il pourrait y en avoir de plus en plus, selon Loïc Mangeau, c'est le directeur adjoint de l'Office de l'eau.
On est dans un contexte de changement climatique avec probablement, on n'a pas la certitude, mais c'est quand même le signal qui est envoyé, des épisodes de plus grande amplitude, c'est-à-dire des carèmes beaucoup plus sévères qui vont se répéter et avec des difficultés qui risquent de survenir à l'avenir. Donc il faut anticiper sur, on va dire, une meilleure utilisation globale à l'échelle de l'île de la ressource. Donc ça, on y travaille, ça se modélise, ça se schématise, et après, ça doit être mis en œuvre dans le cadre des politique publique opérée par les collectivités qui sont compétentes dans le domaine.
En Guadeloupe, maintenant, la deuxième version du bouclier qualité-prix suite à un accord conclu entre l'État et les représentants de la grande distribution. Le préfet précise que la part des produits locaux va augmenter de près de 28%. Le dispositif affiche également une baisse de 10% sur le prix du panier. Le préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin.
Sur les 106 produits que nous en avons à peu près 37% qui sont des produits de distribution nationale. Nous avons augmenté la part de produits locaux, et ça j'en suis très heureux, on est passé de 24% à 27,4%. Et puis les produits premier prix sont vraiment minoritaires, puisque c'est aux alentours de 14%. Et on a insisté aussi sur la qualité, c'est-à-dire concrètement pas de produits sucrés ou gras, des fruits, des légumes et petite nouveauté aussi des préservatifs masculins.
On termine en Guyane avec ce déplacement sur le terrain, ou plus précisément sur la plage. Hier matin, pour la maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort est venue constater de ses yeux la triste réalité de l'arrivée sur les rivages guyanais des très envahissantes algues sargasses. La maire du chef-lieu s'est ensuite entretenue avec des acteurs du monde économique pour évoquer les modalités du combat qui s'annonce. Marie-Laure Finera-Hort est au micro de Lindy Nédan.
Dès 2018, je m'étais impliquée auprès des pêcheurs par rapport aux sargasses en fond de mer, puisque les pêcheurs avaient cette problématique l'année dernière pour leur production. Et puis là, cette année, on se retrouve comme mes collègues antillais. Nous nous retrouvons avec des sargasses sur la plage, qui échouent sur la plage. Aujourd'hui, on sait, par rapport à l'expertise des Antilles, qu'il y a une toxicité. Alors, ce que j'ai fait, moi, la première réaction, c'est d'avertir l'ARS, qui est le gendarme de la santé, justement, pour pouvoir procéder à des contrôle, à de la surveillance. Bon, à ce jour, je rassure, puisque l'ARS nous a envoyé des résultats en disant que pour le moment, il n'y avait pas de risque. Simplement, moi, j'interpelle les citoyens qui vont sur la plage, je leur demande d'éviter de marcher sur les sargasses. Ça, par contre, il vaut mieux pas.
Bon après-midi, Hugo. Bon week-end à lundi.
Merci, Benoît Ferrand. Très bon week-end à vous également. À suivre sur RFI à 14h30, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 minutes. Langue française, francophonie et histoire d'Haïti était au programme d'urgence d'écrire Rêve d'habiter, la leçon inaugurale de l'écrivaine haïtienne. C'était hier, jeudi 21 mars. RFI retransmet l'intégralité de la prise de parole de Yannick Lahens, celle qui a donc baptisé la chaire Monde francophone, récemment créée par le Collège de France, justement dans le but de favoriser la réflexion autour de la francophonie et ses expressions culturelles. En cette semaine de la francophonie, rendez-vous à ne surtout pas manquer. Ce sera dans une poignée de secondes. C'est la fin de cette édition réalisée par Ovidio de Souza. Merci à lui. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques est à retrouver sur RFI.fr, l'application mobile RFI, sans oublier notre page Facebook. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques revient lundi avec Anne Verdaguer. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.